Alors, simplement, pour concernant la convention des APEB au mois de septembre, eh bien, j'ai laissé des flyers en avant, donc vous pouvez en prendre une copie. Ça vous donne une description d'un petit peu de ce qui va se passer durant la journée. Voilà. En ce qui concerne Mission Vacances, vous allez trouver notre frère Boris. Boris, tu veux te lever? Voilà. Ceux qui ne le connaissent pas bien. C'est bien, Boris. Alors, vous allez le trouver. Il y a les formules d'inscription pour Mission Vacances. Je vous invite à tourner avec moi dans Éphésiens chapitre 5, verset 20. Éphésiens chapitre 5, verset 20. Éphésiens chapitre 5, verset 20, où Paul nous ordonne de faire quelque chose que beaucoup croient être la chose la plus difficile à obéir dans la parole de Dieu, mais qui a pour conséquence en même temps de nous apporter la plus grande de toutes les bénédictions lorsque nous y obéissons. Pardon. Éphésiens chapitre 5, verset 20. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je le répète, c'est peut-être la chose la plus difficile à laquelle nous devons obéir à Dieu dans la parole. Rendre continuellement grâce à Dieu pour toutes choses, les bonnes comme les mauvaises. Et Paul, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, il dit ceci. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard ce que Dieu veut en Jésus-Christ pour vous. Amen. Et on va voir pour nous si c'est facile d'obéir, parce que je fais partie de ceux qui croient sincèrement que c'est une des choses les plus difficiles pour un chrétien d'obéir, rendre grâce à Dieu en toutes choses. Il y a quatre types de réactions que nous rencontrons chez les gens face aux situations de la vie. Il y a d'abord ceux qui se plaignent constamment. Avez-vous déjà été en présence de ce genre de personnes? Elles ne font que se plaindre du matin jusqu'au soir et elles sont incapables de dire quelque chose de bien sur qui que ce soit ou sur quoi que ce soit. Une femme était mariée à un homme qui avait cette attitude. Il n'y avait rien pour la faire sourire. Et un matin, elle se lève déterminée à lui faire plaisir coûte que coûte. Elle lui dit, « Chérie, qu'est-ce que tu voudrais pour déjeuner? Demande-moi ce que tu aimerais manger, je vais le préparer. » Il lui dit, « Très bien. Je voudrais deux tranches de pain, une de blé entier et la deuxième de pain blanc. Sur la tranche de pain blanc, je veux du beurre. Et sur la tranche de blé entier, je ne veux rien. J'aimerais que tu me fasses deux œufs. Le premier avec le jaune et le deuxième brouillé. Pas de problème, chérie, lui dit l'épouse. » Quelques minutes plus tard, l'épouse apporte le déjeuner à son mari et place l'assiette devant lui sur la table. Elle voit que son visage est quelque peu soucieux. Elle lui demande s'il y a quelque chose qui ne va pas. Il lui répond, « Oui, tu as brouillé le mauvais œuf. » J'ai beaucoup de difficultés avec ce genre d'individus parce que vous ne pouvez jamais, jamais leur faire plaisir. Ils trouvent toujours le moyen de se plaindre. Il y a un deuxième type de réaction que nous rencontrons chez les gens face aux situations de la vie. Ce sont les gens qui ne manifestent jamais de gratitude. Ils ne se plaignent pas, mais ils sont tout simplement ingrats. Ils ressemblent à ce chien en train de manger sa nourriture qui ne quitte pas des yeux son plat et qui ne manifeste aucune reconnaissance à son maître pour la nourriture qu'il a reçue de lui. Je ne sais pas si vous avez un chien, mais c'est exactement ce qui se passe avec mon chien. Il ne peut nous arriver à l'occasion de faire partie d'un de ces deux groupes de personnes, frères et sœurs. Le premier qui se plaint constamment, et le deuxième qui ne manifeste aucune reconnaissance pour ce qu'on a fait pour lui. Il y a un troisième type de réaction que nous rencontrons chez les gens face aux situations de la vie. Ce sont ceux qui manifestent de la reconnaissance pour les bénédictions qu'ils reçoivent. S'ils reçoivent de l'aide, ils remercient Dieu pour l'aide qu'ils ont reçue. S'ils ont de quoi manger sur leur table, ils remercient Dieu pour la nourriture qu'ils ont eue. Et ils continuent à remercier Dieu pour toutes les bénédictions évidentes qu'ils reçoivent dans leur vie. Mais il y a un type de réaction que nous rencontrons chez certains et qui dépasse de loin toutes celles que nous venons de voir, frères et sœurs. Ce sont ceux qui appartiennent au quatrième groupe de personnes qui réagissent comme Paul le demande au verset 20. Ce sont ceux qui rendent continuellement grâce à Dieu, le Père, pour toutes choses. Chers amis, voilà le type de réaction le plus élevé qui nous est demandé de manifester tous les jours face aux différentes situations que nous sommes appelés à vivre. Prions. Oui, Seigneur, il est beaucoup plus facile de soulever, Seigneur, de mettre en lumière ce qui ne va pas dans la vie des autres, de critiquer, d'être négatif. Que tu te rendes grâce en toutes choses. Combien il est difficile pour nous, même en tant que chrétiens, de saisir cette vérité que tu nous transmets à travers l'apôtre Paul dans Éphésiens et dans Thessaloniciens. De te rendre grâce en toutes choses. Tu dis en toutes choses et non pas seulement dans les bonnes choses, tu nous dis en toutes choses. Cela sous-entend dans les bonnes comme dans les mauvaises. Humainement parlant, il est difficile, s'il est difficile de te rendre grâce dans les bonnes choses, à combien de fortes raisons il est deux fois plus difficile de te rendre grâce quand tout ne va pas nécessairement bien dans notre vie. Seigneur, ce matin, que tu puisses éclairer nos consciences, que tu puisses révéler à notre esprit, Seigneur, ta vérité, afin que nous puissions nous réaliser, afin que nous puissions réaliser combien tu es bon pour nous, et que peu importe ce que nous vivons, Seigneur, tu es toujours à nos côtés. Quand nous tombons, tu es là pour nous relever. Quand nous nous arrêtons, tu es là pour nous encourager à poursuivre notre pèlerinage terrestre. Seigneur, nous te demandons de nous accompagner ce matin dans ce message. Nous te demandons, Seigneur, de parler au cœur de chaque personne ici présente, sans exception, afin, Seigneur, que nous puissions avoir l'assurance que tu as parlé à nos cœurs, que tu nous as exhortés, que tu nous as fortifiés, que tu nous as encouragés, que tu nous as repris, mais surtout que tu nous as rappelé combien nous pouvons compter sur toi, que tu ne nous fais jamais défaut, dans les bonnes choses comme dans les mauvaises choses. Et tout ça, c'est pour la gloire de ton nom que je te demande, Père. Amen. Il y a une légende qui raconte qu'un homme avait trouvé le silo où le diable garde les graines qu'il sème dans le cœur des êtres humains. Il s'est aperçu qu'il y avait une sorte de graine que le diable avait en quantité industrielle, et c'était la graine du découragement. Le diable lui dit alors que c'est la graine qu'il utilise le plus, parce que lorsqu'il réussit à semer le découragement dans le cœur de quelqu'un, alors, dit-il, je peux lui faire pratiquement faire tout ce que je veux, parce que cette graine, elle pousse avec rapidité dans le cœur de n'importe qui, sauf chez ceux qui ont appris à rendre grâce à Dieu en toutes choses. Je suis incapable de les amener à se plaindre, dit-il, à critiquer, à être insatisfait de quoi que ce soit ou de qui que ce soit, lorsque quelqu'un rend grâce à Dieu en toutes choses. Paul écrit dans Éphésiens chapitre 5, verset 20, « Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et ce matin, j'aimerais examiner un peu plus en profondeur ce verset. Tout d'abord, à quel moment devons-nous rendre grâce? Paul dit dans ce verset, et je pense que ça laisse aucune place à une autre interprétation, il dit « continuellement ». Ça veut dire « toujours »,« continuellement » ou « en tout temps ». Et pourquoi devons-nous rendre grâce? Ça, c'est la question que je me suis posée. Pourquoi Dieu nous demande à travers Paul de rendre grâce toujours? Pourquoi? Parce que nous ne cessons de recevoir des bénédictions de la part du Seigneur. Vous dites « Amen » à ça ce matin. Oui, hein? Voilà pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses, dans les bonnes comme dans les mauvaises choses. C'est pas parce qu'on vit des situations difficiles que Dieu n'est plus là. Dieu est toujours là. Et on va voir pourquoi. Pourquoi? Rendez continuellement grâce, ne vous arrêtez pas, ne le faites pas seulement une fois par année lors de la fête de la moisson ou lors de la fête de l'action de grâce. Rendez grâce, dit Paul, à chaque jour de l'année et ce, en toutes choses. Tournez avec moi dans le psaume 68, verset 20 et regardez ce que le psalmiste écrit. Psaume 68, verset 20. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Littéralement, le psalmiste est en train de dire ici, bénissons le Seigneur qui chaque jour prend soin de nous, qui chaque jour nous prend en charge et nous accorde de riches bénédictions. Amen. Et il dit au verset 21, il est le Dieu de notre salut, il est pour nous le Dieu des délivrances. Frères et sœurs, pourquoi on doit rendre grâce à Dieu en toutes choses? Parce que même dans les mauvais moments de nos vies, même dans les épreuves, les difficultés, la maladie, dans le chagrin, Dieu est le Dieu des délivrances, nous dit le psalmiste. Et là, on n'est pas en présence d'un théologien, on est en présence de quelqu'un qui connaît, qui a vécu sur le terrain, qui a vécu une relation intime et personnelle avec Dieu. Il était capable de dire, Dieu est vivant. Dieu m'a parlé. Amen. Et Dieu nous parle encore aujourd'hui à travers sa parole. C'est extraordinaire. Écoutez ce que Jérémie dit dans Lamentations, chapitre 3, verset 22, en parlant de la bonté de Dieu. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas arrivées à terme. Elles se renouvellent chaque jour. Et Jésus nous dit, à chaque jour suffit sa peine. Ne vous préoccupez pas de ce qui va vous arriver demain, vous ne savez même pas si vous allez être en vie. Vivez d'abord le moment présent. Et le moment présent, la parole nous rappelle qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. Amen. Ouais. Jérémie sous-entend ici la fidélité de Dieu qui est grande. Si les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin, cela signifie que Dieu est fidèle et nous pouvons rendre témoignage combien Dieu a été fidèle jour après jour dans chacune de nos vies, en nous donnant exactement ce dont nous avions besoin dans chaque domaine de notre vie. Voilà pourquoi chaque prière que nous faisons doit être accompagnée d'actions de grâce. Les actions de grâce, en bon français, en français courant, c'est des remerciements. Frères et sœurs, dans notre nature humaine, on a tellement de facilité à critiquer, à démolir des réputations, à salir des gens. Et en Jésus-Christ, en tant que né de nouveau, on devrait aussi, à travers la parole, à travers la vie qu'on vit en Jésus-Christ, avoir une facilité à élever nos frères et sœurs dans la foi, à glorifier le Seigneur pour ce qu'il fait dans votre vie, qu'il fait dans ma vie, parce que c'est son œuvre. Vous êtes amen à ça ce matin. Tournez avec moi dans Philippiens, chapitre 4, verset 6. Philippiens, chapitre 4, verset 6, c'est encore une parole inspirée par Dieu à l'apôtre Paul. Paul dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, peu importe la situation que vous vivez, bonne ou mauvaise, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Le combat spirituel, il est là. Le diable cherche à nous détourner nos pensées de celles de Jésus-Christ. Et quand on détourne nos pensées de celles de Jésus-Christ, eh bien, c'est la chair qui refait surface. C'est cet esprit de critique qui refait surface. Et on se voit comme des victimes. Et on voit les autres comme des persécuteurs. Alors qu'une seule victime, victime expiatoire pour les péchés, pour nos péchés. Une seule victime dans la Bible. Tout le reste, ce sont des pécheurs. Dieu ne traite personne en victime dans la parole de Dieu. Amen. Si vous demandez à Dieu de vous bénir, que vous le remerciez, que vous ne le remerciez pas pour ce qu'il a déjà fait pour vous, c'est que votre foi est faible. Si vous vous présentez devant Dieu que vous dites, Seigneur, fais ceci, fais cela, accorde-moi ceci, accorde-moi cela, et que vous ne le remerciez pas, vous avez besoin que la mesure de votre foi soit augmentée. Paul dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Que votre requête soit connue de Dieu. Le mot merci est un grand mot. Le grand poète Rudyard Kipling, qui a vécu de 1865 à 1936, avait acquis une grande notoriété comme écrivain. Au sommet de sa carrière, je ne sais pas ce que ça représentait en 1900 peut-être, au sommet de sa carrière, il recevait 10 shillings pour chaque mot qu'il écrivait. Pas pour un livre qu'il avait écrit. Donc, j'ai l'impression que ça t'encourage à écrire un livre assez épais, à 10 shillings le mot. Hein. Il recevait 10 shillings par mot. Cela représentait beaucoup d'argent à cette époque, ce qui provoqua une certaine jalousie de la part de certains de ses étudiants, qui étaient frustrés de voir qu'il touchait 10 shillings pour chaque mot qu'il écrivait. Alors, les étudiants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de lui faire une blague. Ils ont pris 10 shillings, ils l'ont placé dans une enveloppe. qui lui ont fait parvenir par la poste, avec une petite note qui disait ceci. « Pour 10 shillings, écrivez-nous le mot le plus important pour vous. » Il leur répondit au dos de leur lettre, « Merci. » C'est un mot très important, n'est-ce pas? « Merci. » « Merci. » « Merci, Seigneur, pour Jésus-Christ. » « Merci, Seigneur, pour l'espérance que tu as placée dans ma vie. » « Merci, Seigneur, pour l'Église que tu m'as donnée. » « Merci, Seigneur, pour les frères et sœurs en Christ que tu m'as donnés. » « Merci, Seigneur, pour la patience que tu manifestes à mon égard jour après jour. » « Merci, Seigneur, pour ta compassion. » « Merci, Seigneur, pour ta bonté. » « Merci, Seigneur, parce que tu pourvois tous mes besoins. » C'est un grand mot, le mot « merci ». C'est quand même un des mots très importants dans la langue française et dans la langue anglaise et dans toutes les langues. Quand devons-nous rendre grâce? Nous devons rendre grâce toujours, c'est-à-dire continuellement. Pourquoi devons-nous rendre continuellement grâce à Dieu? Parce que, je le répète, nous recevons continuellement des bénédictions de la part de Dieu. Maintenant, voici le deuxième point que j'aimerais garder dans ce verset. Pourquoi devons-nous rendre grâce en toutes choses? Tout simplement parce que Dieu règne sur toutes choses et que nous devons rendre grâce pour toutes choses. Regardez le verset 19. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 19. Vous permettez que j'enlève le premier bouton de ma chemise, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la compassion. Ce n'est pas une cravate, j'ai l'impression d'avoir un nœud coulant. Verset 19. Paul écrit que nous devons lui rendre grâce, comment? Par des psaumes, des hymnes et des cinquantiques. Chantant et célébrant de tout notre cœur les louanges du Seigneur, rendant continuellement grâce à Dieu, c'est-à-dire en le louant de tout notre cœur. Louer le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il écrit ici. Peu importe ce qui survient dans nos vies, selon Paul, nous devrions avoir constamment un chant dans notre cœur. Amen. Lorsque Paul nous demande de rendre grâce à Dieu en toutes choses, il fait référence ici aux choses simples de la vie. Par exemple, remerciez Dieu pour l'eau. Lorsque vous vous servez un verre d'eau et que vous fermez ensuite le robinet, est-ce que vous remerciez Dieu pour l'eau que vous allez boire? C'est simple. Mais on a l'impression que ça nous est acquis maintenant. Bon, c'est vrai qu'on paye une taxe d'eau qui augmente régulièrement, mais on a l'impression que tout nous est acquis. De la bonne eau en quantité limitée, alors que dans certains endroits, l'eau est contaminée, tu environ... J'ai lu ça hier, 5 millions de personnes chaque année. C'est la moitié de la population de la Belgique. Donc, beaucoup d'enfants qui meurent de paludisme et de choléra. On affirme que 2,3 milliards de personnes souffrent de paludisme et de choléra dans le monde à cause de l'eau non potable, de l'eau contaminée. Frères et sœurs, c'est quelque chose de simple. Vous dites, Seigneur, je te rends grâce pour l'eau que je peux boire à volonté. Je rends grâce, Seigneur, parce que je peux arroser mes fleurs comme je veux, je peux arroser mon potager comme je veux. Je n'ai même pas besoin que la pluie tombe du ciel, d'attendre que la pluie tombe du ciel. J'ai juste à ouvrir le robinet, à tirer le boyau et j'arrose mon potager, j'arrose mes fleurs. Et mon gazon est toujours vert. Alors que vous regardez la télévision, des émissions où je prends l'Éthiopie, je prends d'autres pays de ce genre, il n'y a pas de gazon et le sol est fissuré tellement que ça fait des mois qu'il n'y a pas plu. C'est une grâce. On peut rendre grâce pour ça. La prochaine fois que vous buvez de l'eau, juste avant de la boire, pourquoi ne pas incliner la tête et rendre grâce à Dieu pour une chose aussi simple que l'eau? Remerciez Dieu pour une chose aussi simple que la vaisselle sale. Vous vous dites peut-être, non, mais attendez une minute, c'est pas possible que vous me demandiez, pasteur, de rendre grâce à Dieu pour la vaisselle sale. Pourtant, vous devriez, parce que cela signifie que vous venez juste de prendre un repas. Il y a des gens qui ont des assiettes propres et ça fait des semaines qu'ils n'ont rien mis dedans. Alors, c'est un bon signe pour nous, hein, quand on voit le côté positif. C'est un bon signe de voir que l'assiette est sale, c'est de dire, Seigneur, je te remercie. D'abord, on devrait avoir déjà rendu grâce avant d'avoir mangé. Hein? Mais l'assiette sale nous démontre une chose, Seigneur, merci, parce que je n'ai manqué de rien aujourd'hui au niveau de la nourriture. Quelque chose de simple, n'est-ce pas? L'eau, le repas, la nourriture. Il est facile de rendre grâce à Dieu pour les choses simples, les choses qui sont évidentes. Mais qu'en est-il lorsque nous n'avons pas vraiment envie de rendre grâce à Dieu? Qu'en est-il lorsque nous souffrons? Qu'en est-il lorsque nous vivons des problèmes dont Dieu seul connaît la gravité. Pouvez-vous rendre grâce à Dieu pour le chagrin que vous traversez? Pouvez-vous rendre grâce à Dieu pour la douleur que vous ressentez? Vous vous dites, « Pasteur, si vous saviez ce que je traverse en ce moment, vous ne prêcheriez pas avec un visage aussi décontracté. » Mais permettez-moi de vous dire ceci. Ce n'est pas moi qui ai écrit les Écritures. Elles ont été écrites sous l'inspiration divine. Je n'en suis pas l'auteur, je n'en suis que le messager, le porte-parole, celui qui est appelé à l'annoncer. L'Épître aux Ephésiens a été écrite par l'apôtre Paul. Vous vous dites peut-être qu'il n'a jamais eu de problème, l'apôtre Paul, et qu'il faut être insensible aux difficultés que rencontrent les gens pour écrire de telles choses. Comment quelqu'un peut-il écrire qu'on doit rendre grâce à Dieu en toutes choses, dans les bonnes comme dans les mauvais? C'est quelqu'un qui n'a jamais rien vécu. Eh bien, lorsque Paul a écrit cette lettre, d'Éphèse, il était en prison. Il était injustement accusé d'être l'auteur d'une émeute qui s'est propagée dans toute la ville d'Éphèse. Et il croupissait maintenant en prison injustement. Et c'est lui qui écrit « Rendez grâce à Dieu en toutes choses. » Entre autres parce que nous dépendons de lui pour tout. Examinons maintenant comment Dieu peut utiliser certaines choses comme les difficultés, les chagrins, les problèmes, la maladie, la mort et les larmes dans nos vies pour notre plus grand bien. Les difficultés, frères et sœurs, peuvent être un moyen pour Dieu de nous corriger. Tournez dans Hébreux chapitre 12, verset 11. Je vais la lire dans une autre version que la Louis II, mais bon, je pense que ça se ressemble beaucoup. Hébreux, chapitre 12, verset 11. Il est vrai que tout châtiment nous semble au moment même être là une cause de tristesse, et non de joie. Mais plus tard, tous ceux qui ont été formés par cette punition, par ce châtiment, bénéficient de l'effet qu'il produit. Et qu'est-ce qu'il dit ici, l'apôtre Paul, l'effet qu'elle produit? Eh bien, c'est la paix associée à une vie juste. Tout comme le châtiment nous paraît dans un premier temps être quelque chose d'injustifié, de négatif, les difficultés que nous traversons, même si elles sont un sujet de tristesse et non de joie, servent à produire plus tard pour tous ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice, nous dit l'apôtre Paul. Le châtiment ne doit pas servir à détruire, à démolir quelqu'un, mais à l'amener à revenir sur le droit chemin et aussi à marcher dans la vérité à laquelle il est appelé. L'auteur écrit ici au verset 10 de la même épître que nos pères nous châtiaient pour peu de temps selon ce qu'il leur paraissait juste. En d'autres mots, parce qu'ils nous aimaient. Je suis convaincu que mon père ne m'a jamais battu, ne m'a jamais châtié parce qu'il me détestait. Il est mort, ça fait 25 ans, et j'aimerais ça aujourd'hui le serrer dans mes bras et lui dire « Papa, tu as bien fait de faire ce que tu as fait avec moi. Sinon, je serais devenu un vrai délinquant, un meurtrier même, un dangereux pour la société. » Et je suis d'accord avec ce que Paul dit ici. Le châtiment, eh bien, ça a fait de moi quelqu'un qui a marché, en tout cas du mieux qu'il pouvait dans le monde, à vivre comme nos autorités nous demandent de vivre. Que nos pères nous châtiaient pour peu de temps selon ce qui leur paraissait juste. En d'autres mots, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Parce qu'ils nous aimaient. En fait, je dois dire qu'avec toutes les corrections que j'ai reçues, j'étais convaincu que mon père m'aimait et que j'étais son préféré parmi les 8 enfants que nous étions à la maison. Mon père, il me tapait, il faisait peur aux 7 autres et c'était réglé. Et heureusement que la psychologie n'existait pas dans ce temps-là. J'en avais rien à cirer de personne. Rien à cirer. J'attendais juste que les gens aient fini de parler. Ça me rentrait ici, ça me sortait là. J'ai fait ma première fugue à 5 ans. C'est la police qui a dû m'amener dans un poste de radio que je parle sur les ondes pour que les voisins puissent reconnaître ma voix et appeler mes parents pour dire qu'on venait de me retrouver. On me mettait en punition dans ma chambre, je sortais par la fenêtre. Qu'est-ce que vous faites avec un enfant comme ça? Ben, mon père, il m'attendait, par exemple. Il n'a jamais lâché le morceau, lui. Il m'attendait. Moi, c'est bien ce que la Bible dit, hein? La folie est attachée au cœur de l'enfant. C'était vraiment ça. Hein? Vraiment ça. Hein? Ouais. Et avant de mourir, j'ai eu le privilège de demander pardon à mon père. de demander pardon à ma mère pour toutes les calamités, toutes les sottises que je leur avais causées, les nuits blanches que j'avais provoquées dans leur vie. Et le fait que j'ai demandé pardon à mon père, qui était un non-chrétien, ça l'a amené à accepter le Seigneur Jésus-Christ. Il pleurait comme un bébé. Il regrettait donc de m'avoir tapé. Il regrettait donc de m'avoir discipliné. Et aujourd'hui, devant vous, je peux vous dire que c'était bénéfique pour moi. Bénéfique. Bénéfique. Alors, si on a l'occasion de notre vivant de demander pardon à nos parents, de les embrasser, de leur dire qu'on les aime, faisons-le avant qu'ils meurent. Parce qu'on risque de le regretter toute notre vie de ne pas l'avoir fait. Il est vrai que tout sentiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais plus tard, tous ceux qui ont été formés par cette punition, pardon, bénéficient de l'effet qu'elle produit, la paix associée à une vie juste. Et Dieu nous punit, nous châtie pour notre bien afin qu'elle nous partie. Regardez la raison, il la donne, c'est pas moi, hein? Parce que là, vous vous dites, je suis détraqué. Pourquoi? Pour que nous participions à sa sainteté. En bon français courant, ça veut dire quoi? Pour que nous ressemblions à son Fils, à celui qui l'a envoyé. Écoutez, le Seigneur, il pourrait se contenter uniquement de dire, écoutez, pas de problème, tu es un pécheur, tu es perdu, tu t'en vas en enfer pour l'éternité, ça c'est ta place qui t'est réservée, mais moi je t'aime, et moi non seulement je veux te sauver, il pourrait s'arrêter là. Mais il dit non, maintenant le travail que je vais faire dans ta vie, et je vais prendre tous les moyens pour y arriver, c'est de t'amener à ressembler à la personne de Jésus-Christ. Et t'amener à ressembler à la personne de Jésus-Christ, c'est quoi? Manifester le caractère de Christ. Il a été accusé injustement, il n'a point ouvert la bouche. Il a subi les pires injustices, il n'a pas cherché à se justifier. Il n'a pas cherché à s'innocenter, à dire « vous avez tort, j'ai raison ». Il a accepté pour vous, par amour pour vous et par amour pour moi. Vous imaginez s'il avait commencé à se défendre? La Bible nous dit qu'il aurait pu appeler des légions d'anges venir le défendre. Il était foutu pour l'éternité s'il avait commencé à tomber dans ce piège-là. Il a préféré laisser les légions d'anges au ciel et aller se chercher au fil des siècles des légions de frères et sœurs, des légions de chrétiens. Et c'est à la croix, il savait qu'il devait passer à la croix. David dit dans le psaume 119, 67, « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. » Seigneur, avant que tu fasses un travail dans ma vie, j'allais n'importe où. Je faisais ce que bon me semble. C'est ce qu'il dit, hein? Maintenant, j'ai compris. Je marche dans la vérité. Il le reconnaît lui-même, David. David, c'est pas un roi telet. C'est un des grands rois d'Israël. Si la souffrance, frères et sœurs, et le chagrin peuvent servir parfois à nous corriger et à nous ramener à Dieu, elles peuvent aussi servir à nous amener à dépendre davantage de Dieu. Quand on vous annonce que vous avez un cancer, quand vous avez fait une série de traitements de chimio, et qu'on vous dit, maintenant, mon ami, on ne peut plus faire d'autres traitements puisque le cancer s'est installé dans ton corps. Il n'y a aucun traitement qui tue les cellules cancéreuses que tu as. Eh bien, tu viens dans un premier temps, tu t'appuies sur la médecine, tu fais confiance à la science. Et là, la science te dit, c'est terminé pour toi, il n'y a plus de traitement. C'est souffrant le cancer. Mais dans ta souffrance, Dieu veut aussi t'amener à dépendre de lui. Tu as mis ta confiance dans la science a fait ce qu'elle peut. Et là, tu dis, le seul recours qui me reste, c'est Dieu. C'est une bénédiction, finalement. C'est Dieu. Si la personne est guérie à travers la chimio, vous pensez qu'elle risque de se retourner vers Dieu? Jamais de la vie. Sa confiance vis-à-vis de la médecine va augmenter. Et c'est un moyen. C'est un moyen que Dieu utilise. Ce n'est pas que Dieu est cruel. Ce que Dieu veut à travers tout ce qu'on vit, c'est notre salut. C'est tout ce qui compte pour Dieu, notre salut d'abord. Qui nous donne tout ce qu'on veut dans notre vie. Qu'on ait tout avec abondance, qu'on ne souffre jamais. Il n'y a personne qui se tournerait vers Dieu. Et je suis d'accord avec le pasteur Adrian Rogers, qui est décédé en 2006, qui dit « La souffrance, finalement, c'est une grâce que Dieu permet à l'être humain. S'il n'y avait pas de souffrance sur la terre, s'il n'y avait pas de maladie sur la terre, dans le monde dans lequel on vit, personne, y compris vous, ne se tournerait vers Dieu. Personne! La preuve, frères et sœurs, quand ça va bien, on n'en a rien à cirer de Dieu. Quand on est en santé, qu'on a un bon compte de banque en santé, quand on a une maison qui est payée, quand on a de l'argent, on a ce qu'on veut. Même en tant que chrétien, souvent Dieu, deuxième, troisième, quatrième dans ma vie. Et Dieu dit, ah, t'es mon enfant, mais moi je t'aime. Et moi, je vais m'occuper de toi. Ça fait partie du contrat. Je vais m'occuper de toi. Et là, paf, petite maladie. Paf, une petite souffrance. Paf, une petite épreuve. Paf, une petite difficulté. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On tend le bras vers Dieu. Et qu'est-ce qu'on fait en tant qu'être humain? Qu'on fasse notre péché. Seigneur, je reconnais que t'as pas la première, t'occupais pas la première place dans ma vie. Je te demande pardon. Et là, on revient. On est chrétien, mais on reste humain. Et le Seigneur, il sait quoi faire pour nous ramener à lui. On a un Dieu qui est grand, un Dieu qui est bon. Troisièmement, la souffrance et le chagrin peuvent être un moyen pour nous amener à dépendre davantage de Dieu. Le pasteur Maxwell a écrit un livre, Aller vers Christ. Dans ce livre, il écrit que la souffrance, le chagrin et les problèmes nous amènent à aller à la rencontre de Christ. Si nous n'avions jamais de problème, nous garderions nos distances avec lui. Mais nos problèmes, nos ennuis, nos difficultés sont ainsi un moyen pour nous d'aller à la rencontre de Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 10, Paul parle à un moment donné qu'il a été ravi en esprit jusqu'au troisième ciel. Il a entendu des paroles merveilleuses qu'il dit qu'il n'est pas permis à aucun homme de répéter. Et il dit que pour qu'il ne soit pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ce qu'il a entendu, à cause des révélations incroyables qu'il a entendues en étant enlevé dans cette vision au troisième ciel, il m'a été mis une écharpe dans la chair. En français courant, vous savez c'est quoi une écharpe dans la chair? Il m'a été imposé une dure souffrance dans mon corps. Un ange de Satan pour me souffleter, c'est-à-dire me frapper et m'empêcher de m'énorgueillir. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. À trois reprises, frère et sœur, Paul demande à Dieu de lui enlever cette écharpe dans la chair et le Seigneur lui dit, « Ma grâce est tout ce dont tu as besoin. » Frère, vous savez ce qu'on a le plus besoin aujourd'hui? Peu importe qui vous êtes ici ce matin, peu importe ce que vous vivez, vous avez besoin de la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, vous pouvez tout avoir, vous pouvez penser avoir tout avoir, mais vous n'avez rien et vous n'êtes rien, dit l'apôtre Paul. Ma grâce est tout ce dont tu as besoin. Ma grâce, ça veut dire quoi? De savoir que Dieu, que je t'aime, Paul. De savoir que tu peux compter sur moi, Paul. De savoir que je suis là pour te délivrer, Paul, que je suis là pour te soutenir, Paul. Ma grâce est tout ce dont tu as besoin. Vous imaginez si Dieu se retire de la vie de Paul? Il n'y a rien, il n'y a plus rien pour Paul. Et Dieu dit, ma grâce te suffit, Paul. Et j'espère qu'aujourd'hui, dans votre cœur ce matin, c'est aussi la même réponse que vous pouvez dire, oui, Seigneur, ta grâce me suffit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en d'autres mots, je vais te fortifier davantage pour accomplir ton ministère, Paul. Et pourquoi je veux pas que tu laisses cette écharpe dans ta fête? Paul, tu es un grand théologien, Paul. Tu es un ancien pharisien, Paul. Tu as une connaissance de la loi, Paul. Et pour t'éviter un jour de t'accaparer la gloire qui me revient, Paul, je te mets une dure souffrance dans ton corps. On ne sait pas c'est quoi, hein? On peut inventer n'importe quoi. Certains théologiens disent que Paul n'y voyait presque plus. Ça peut être autre chose aussi. Hein? Je ne suis pas catégorique, puisque la Bible n'est pas catégorique non plus. Mais Paul a vécu avec ça. Et Paul ajoute, c'est pourquoi je me réjouis dans les faiblesses, dans les outrages, dans les détresses, dans les persécutions. Et il se réjouit, lui-là, hein? Dans les angoisses que je subis pour Christ. Il ne dit pas que je subis parce que je fais des choses mal, mais il dit, je me réjouis de toutes les persécutions qui peuvent survenir parce que je sers la personne de Jésus-Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et le mot faible, c'est pas apprendre au sens humain. C'est quand je suis effacé et que Dieu prend toute la place, que je vois la puissance de Dieu se manifester à travers moi et devant moi. Paul dit, Dieu m'aime, il a mis une écharpe dans la chair afin que je puisse voir jusqu'à quel point je dois m'effacer, c'est-à-dire que je ne peux rien faire sans lui. Il veut que je dépende de lui, que j'apprenne à compter sur sa puissance. Paul ne dit pas ici que cette grande souffrance qui lui a été donnée par Dieu doit servir à l'écraser, qu'il doit la supporter, mais qu'elle va servir à glorifier le Seigneur et l'amener à se réjouir bien plus volontiers de ses faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur lui. Vous vous souvenez, il y a La dernière fois qu'on a fait une semaine de jeûne et de prière ici, le premier dimanche, on a diffusé une vidéo qui durait à peu près 7-8 minutes sur un chrétien qui avait ni bras et qui avait les jambes de couper juste en bas du tronc. Et cette personne-là, elle fait le tour du monde. C'est un gars maintenant qui a plus entre 30 et 35 ans et qui glorifie le Seigneur, qui est capable de rendre gloire à Dieu, de rendre témoignage à la personne de Jésus-Christ. Vous savez pourquoi il est capable de rendre gloire à Dieu? Il a compris ce que ça voulait dire, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous savez ce qu'il disait? Que s'il avait eu ses deux bras et ses deux jambes, peut-être que ce ne serait jamais donné à Jésus-Christ. Là, il dépend non seulement de Dieu, il est marié, il dépend de sa femme pour l'amener aux toilettes, pour faire sa toilette, pour l'habiller, pour le déshabiller. Il n'y a plus de jambes, il n'y a pas de bras. Pour lui donner à manger. Et cet homme, il trouve le moyen de glorifier le nom de Jésus-Christ. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que dans le monde à laquelle il appartient, le royaume futur dans lequel il va vivre, Dieu va lui redonner non seulement ses deux bras et ses deux jambes, mais va aussi lui donner un corps glorifié. Un corps qui ne sera plus sujet à vieillir, un corps qui ne sera plus sujet à mourir. Et il a placé son espérance dans ça. Et il partage à ceux qui ont leurs deux bras et leurs deux jambes ce que Jésus-Christ a fait dans sa vie. Frères et sœurs, on devrait rendre grâce à Dieu à chaque jour pour toutes les facultés intellectuelles, physiques que nous avons. Ce n'est pas un droit acquis de voir aujourd'hui, d'entendre aujourd'hui. C'est une grâce que Dieu nous fait. Ça peut nous être enlevé à n'importe quel moment, à travers un accident, à travers l'âge qui progresse. C'est une grâce que Dieu nous fait. Heureusement qu'on a la science. Mais la science a ses limites. On ne peut quand même pas se promener avec des fonds de bouteille à un moment donné non plus. Hein? La France a ses, la science a ses limites. Et Dieu peut restaurer toutes choses. Rendons grâce à Dieu pour toutes les capacités, les facultés que nous avons encore aujourd'hui. Frères et sœurs, lorsque vous passez par des moments éprouvants, douloureux et tristes, et que vous réussissez à garder la tête hors de l'eau et à rendre grâce à Dieu, vous venez de couper l'herbe sous le pied du diable et vous l'empêchez de venir déposer dans votre cœur une graine de découragement dans votre cœur. L'ennemi qui nous oppresse s'attend à ce que vous pleuriez, que vous vous lamentiez au milieu de votre problème. Mais il est absolument désespéré lorsqu'au lieu de lui faire, au lieu de le faire, de vous plaindre, ce sont des louanges qui sortent de votre bouche, des actions de grâce qui sortent de votre bouche. Le diable est immobilisé, il est neutralisé. Chers amis, il arrive parfois que toute souffrance qui nous a été imposée dans notre corps nous pousse à dépendre davantage sur Dieu. J'ai vu cela arriver tellement souvent, j'ai eu tellement de témoignages. Et vous pouvez davantage confirmer votre témoignage chrétien aux personnes autour de vous quand vous passez par des moments difficiles que lorsque tout va bien dans votre vie. Car voyez-vous, lorsque vous supportez la souffrance qui vous a été imposée, que vous continuez à louer le Seigneur, vous fermez la bouche du diable, c'est important. Vous vous dites peut-être, eh bien, il est facile pour vous, pasteur, de parler de cette façon. Vous n'avez jamais souffert, vous êtes en pleine forme et vous n'avez jamais vécu de graves maladies. Vous n'avez jamais vécu de graves difficultés. Je ne suis pas si sûr. J'ai eu un cancer, j'étais condamné. Il n'y avait pas d'opération possible pour mon cancer. Dieu m'a restauré. J'ai été policier à 3 reprises, j'ai manqué de me faire tuer. Vous savez, le canon d'un calibre 38, il est gros comme ça, hein? Mais quand vous avez un évadé de prison à 2 mètres de vous qui vous le plante devant la figure, votre cerveau, il se déconnecte. Hein? Et vous voyez le canon gros comme ça. Hein? Gros comme ça. J'ai vécu aussi mes difficultés. J'ai vécu aussi les maladies. Et en tant que chrétien aujourd'hui, je suis capable de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Parce que je sais que même dans la maladie, même dans les épreuves, Dieu est présent. Ce n'est pas parce que je vis des choses terribles que Dieu m'a quitté, que Dieu n'est pas là. Dieu, il est présent. Dans l'aile des cancéreux au grand hôpital de Verviers, ceux qui n'ont pas le Seigneur dans leur vie, ceux qui ne s'appuient pas sur Dieu pour s'en sortir, qui ont simplement leur orgueil humain pour dire « je vais vaincre la maladie » et que je vais les visiter, c'était la seule espérance qu'ils avaient. Oh non, 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 je vais m'en sortir. Ouais, je suis tenace, je suis patient, je suis fort. Oui, Et quand on vient vous dire, c'est le dernier traitement, c'est terminé, monsieur, pour vous. C'est terminé pour vous, madame. Et l'orgueil en prend un coup, hein. Mais en tant que croyant, quand on peut dire, écoute, et j'ai bien aimé ça, hein, j'ai vu cette pancarte dans le bureau de mon médecin qui était écrit, la médecine fait ce qu'elle peut et Dieu fait le reste. Amen. Ouais. Alors, en tant que croyant, c'est vrai, Dieu place les médecins, place la science, donne aussi la connaissance à la science. Mais en tant que chrétien né de nouveau, on peut aussi compter sur Dieu. Et je le répète, je ne fais pas mon témoignage ce matin, mais mon cancer, c'est une des plus belles choses qui me soit arrivée dans ma vie après ma conversion. Parce que j'ai eu une rencontre, j'ai eu une relation encore plus rapprochée comme jamais avec mon Dieu. Et je peux dire aujourd'hui que Dieu est fidèle. Il est là. Il est mon Dieu, il est mon sauveur, mais dans la maladie, je l'ai senti comme mon père. Il m'a porté. Je n'étais pas seul. Et en plus, je bénéficiais de vos prières. Lorsque Paul écrit l'épître aux Philippiens, il se trouve encore une fois en prison. Et lorsqu'il... Vous voulez me dire quelle heure il est parce que j'ai le néon dans la... J'ai oublié ma montre ce matin? Oh, OK, on va arrêter vite. OK, rapidement, on ne développera pas les points, mais rapidement. Je vais vous dire autre chose sur ce que la souffrance peut nous apporter. Elle va nous amener à une plus grande maturité spirituelle et à rassembler davantage à la personne de Jésus-Christ. C'est un point important. Jacques, chapitre 1, verset 4. Je n'ai pas le temps de donner tout le message ce matin. Vous allez virer sur le site Internet de l'Église. Vous pourrez le copier, le lire, faire ce que vous voulez, mais c'est important. Et frères et sœurs, ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament, le Seigneur, à travers les auteurs des Épîtres du Nouveau Testament, nous rappelle que ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament est là pour nous servir d'exemple. Frères et sœurs, Shédrach et Abednego et l'autre, c'est qui l'autre? Shédrach, Meshach et Abednego, voilà. Voilà. Hein? Ils ont été massés les mains, les pieds liés. Ils ont été jetés dans une fournaise par Nabuchodonosor, le roi. Et quand ils ont réouvert les portes de la fournaise en flammes, le feu qui brûlait, le roi, il dit, est-ce qu'on n'a pas placé trois personnes dans la fournaise? Il dit, ça, c'est soldats. Oui, bien, j'en vois quatre. Et pourtant, ils ne brûlent pas. Et on les avait attachés et ils sont déliés. Frères et sœurs, vous savez ce que ça nous rappelle? Et on va terminer avec ça ce matin. Vous savez ce que ça nous rappelle? C'est que dans les épreuves, Dieu ne nous promet nulle part dans la parole de nous épargner des épreuves, de nous épargner de la souffrance, de nous épargner de la persécution. Mais il nous promet une chose à travers Shadrach, Meshach et Abednego, qu'il sera présent, il sera au milieu de nous dans les épreuves, dans les difficultés, dans les moments où on se sent, on a le cœur attristé à mourir. Dieu nous promet qu'il sera présent, qu'il ne nous abandonnera jamais. Le psalmiste, il dit tellement de fois que Dieu ne nous abandonnera jamais. J'espère que c'est votre certitude ce matin, que ça vous poussera, peu importe ce que vous vivez, à rendre grâce à Dieu en toutes choses. Vous ne savez pas pourquoi Dieu permet ça dans votre vie, mais tôt ou tard, vous allez finir par le savoir. Et le but, ce n'est pas de vous diminuer en tant qu'être humain, c'est de vous faire grandir en tant que frère chrétien et vous amener à rassembler à la personne de Jésus-Christ. Vous êtes amen à ça? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous invite à vous lever pour chanter un dernier cantique.